Donc les frères Karamazov, c'est quand même voilà, c'est un roman assez fleuve. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas mal de faire un petit point dramaturgique avant de commencer. Alors c'est l'histoire d'une famille, la famille Karamazov. Donc le père et les trois fils. Enfin, il y a aussi un quatrième fils, mais ça c'est un de mes collègues qui vous en parlera. Moi je ne m'occupe que des légitimes. De Fyodor Pavlovitch Karamazov, le père, donc, je me contenterai de dire une chose, à savoir qu'il appartenait à ce type étrange et qu'on retrouve pourtant assez souvent, je veux dire ce type d'homme non seulement nul et débauché, mais en même temps bon à rien. Qui savent généralement gérer leurs petites affaires de patrimoine et seulement ses affaires, j'ai l'impression. Fyodor Pavlovitch, par exemple, partit de presque rien. C'était un propriétaire foncier des plus petits. Il courait manger chez tel ou tel, rêvait de se faire entretenir, et néanmoins, au moment de sa mort, on lui trouva quasiment 100 000 roubles d'argent comptant. Et en même temps, pendant toute sa vie, il avait continué à être un des originaux les plus bons à rien de tout notre district. Bon, je le répète encore, ce n'est pas une affaire de bêtises. Ces originaux-là, pour la plupart d'entre eux, ils sont futés et pas trop bêtes. Non, le fait est précisément qu'ils sont des bons à rien. Et qui plus est, d'une espèce de catégorie particulière. Nationale.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Même sans l'avoir lu, chacun connaît ou croit connaître l'histoire racontée par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Un père, Fyodor, ivrogne, débauché et cupide, dilapide les biens de la famille et décide d'épouser une prostituée, jouissant de voir le mépris, la haine et la colère qu'il suscite dans l'âme de ses fils. Des fils, il en a quatre. Trois sont légitimes. Dimitri, l'aîné, bagarreur, gros buveur et voleur, perclus de dettes, amoureux de Grushenka, que son père convoite. Ivan, philosophe, athée proclamé, mais déchiré par le doute et la rage. Alyosha, le plus jeune, que l'on dit mystique parce qu'il vit dans un monastère, mais dont la foi vacille lorsque son mentor meurt. Le quatrième, Smerdiakov, habité par la fureur et le ressentiment, est un bâtard que Fyodor utilise comme domestique et maltraite. Le meurtre du père que l'on attribue à Dimitri va faire basculer tous les personnages dans une folie mortifère et une culpabilité destructrice. Grand roman sur le chaos du monde et la question du mal, le dernier livre de Dostoïevski a fasciné beaucoup de metteurs en scène de théâtre, mais bien peu ont osé marcher sur les traces de Jacques Copeau, le premier à s'en être emparé en 1911. Avec plus de 3000 pages, d'innombrables personnages et de terribles monologues métaphysiques, le livre semblait impossible à porter à la scène dans un temps raisonnable et avec un propos compréhensible pour le public. Mais Jean Bellorini, le patron du théâtre de Saint-Denis, habitué maintenant à faire théâtre de grands textes essentiels, s'en est emparé avec son habituel compagnon d'écriture, Camille de la Guillonnière. Dans la traduction tumultueuse d'André Markovis, leur Karamazov, sombre, puissant et joyeux, a enchanté en juillet dernier les spectateurs du Festival d'Avignon. Porté par des acteurs formidables, le spectacle tourne depuis lors en France. Il s'achève ce soir à Saint-Denis et repartira début février, d'abord à Bayonne, avant de terminer le long voyage en juin à Quimper. Jean Bellorini est aujourd'hui l'invité de l'Humeur Vagabonde.
Infinity's prison. The creature made a war. city's illusion. It's snake eyes for sure. Winning by confusion. It's a losing game. It's Saturn rings of reason. By the millions.
God divine.
Bonjour Jean-Bellerini.
Bonjour.
Votre spectacle Karamazov, qui part en tournée en France jusqu'à l'été prochain, il a démarré en juillet dernier à la Carrière Boulbon en Avignon, à l'extérieur, dans un espace gigantesque avec les aléas de l'extérieur, le public, vous avez essuyé les plâtres. Les critiques parfois ont été un peu sévères, un peu trop sans doute. En tout cas, le spectacle a tourné, a évolué. Il a déjà perdu une heure à peu près.
Exactement.
Et vous avez sûrement affiné ce spectacle que moi j'ai trouvé absolument formidable déjà. Donc voilà, mais j'ai entendu les critiques de certains de mes confrères.
Ben, je crois que quand on crée un spectacle, il y a toujours une forme d'inconnu. Et évidemment, quand on le crée sous les étoiles, devant 1200 spectateurs par soir, il y a une espèce d'effervescence qu'on ne maîtrise pas totalement, qui en plus se confond joyeusement avec l'œuvre et la folie de l'œuvre de Dostoïevski. Donc, on a pu entendre que ça criait trop. Je crois que la parole de Dostoïevski quand même est un cri, même si aujourd'hui, dans un théâtre, on s'aperçoit que pour faire du théâtre, ça aide, un théâtre aide tout de même à entendre la parole et la langue est recentrée, on est resserré autour de la langue de Dostoïevski et ça me fait du bien entendu. On a perdu un peu de magie, du vent, de l'univers et en même temps on en a gagné beaucoup et c'est la force même du théâtre.
En même temps, Jean-Bellerini, c'était quand même un sacré défi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous mettez la barre un peu plus haut. Bon, vous êtes habitué des grands textes joyeux de troupes comme Brecht, comme Molnar. Mais vous avez aussi porté à la scène de la littérature classique, Victor Hugo, Rabelais, que l'on ne pensait pas forcément fait pour le théâtre. Vous avez montré que ça pouvait se faire, vous aimez ça, vous dites vous-même que vous êtes un passeur de textes. Là, quand même, les 3000 pages des Karamazov, vous aimez bien vous faire peur.
Mais je pense que c'est une manière d'inventer ensemble avec la troupe. C'est des défis à chaque fois qu'on se lance. Bien entendu que je ne connaissais pas avant. Je connais un petit peu mieux maintenant, mais je connais toujours pas bien. C'est ça qui est formidable, c'est que chaque soir, je redécouvre ce que ça raconte. Et effectivement, c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre du défi, de l'ordre de la folie, et puis de l'excitation que l'on se crée, que l'on s'impose même à être face à ce monument, cet inconscient comme ça, collectif que tout le monde connaît sans connaître, et puis cette adéquation, enfin cette coïncidence du fond et de la résonance actuelle, cette nécessité d'avoir la foi. Au-delà de trouver un dieu, en tout cas que l'homme est un croyant ne serait-ce qu'en l'homme, mais qu'il a besoin de croire, croire qu'il ne croit pas peut-être, mais croire. Ces trois questions que pose un enfant à un autre enfant dans l'œuvre, c'est quoi le socialisme, ça existe Dieu et ça existe l'éternité. Voilà, ces trois questions-là pour moi répondent, enfin être une résolution de toute cette œuvre. C'est ce point d'interrogation qu'on lance.
Mais vous dites, Jean Bellorini, que c'est un texte sur la foi, mais en même temps, on le lit souvent comme un texte sur le désespoir, sur le nihilisme absolu, sur les morts absurdes et sur la désespérance des hommes.
Mais bien entendu, c'est en ça que pour moi, c'est croyant. Ivan, bien entendu, est celui qui l'athée, et en même temps, c'est celui qui doute. Sinon, ça serait simple pour lui. Il en deviendra fou. Ce doute-là anime l'ensemble de cette question. L'harmonie universelle peut-elle être rachetée par la souffrance? Et Dostoïevski quand même répond non. En tout cas, il n'y a pas de forme de salut sur Terre. À partir du moment où il y a une injustice faite à un enfant, quelque chose d'incompréhensible, tant au niveau de la science et de la justice humaine qu'au niveau de la foi et de la justice divine, voilà, cette injustice, cette incompréhension de fond met tout en l'air, fracasse tout. Et du coup, non, il n'y a pas de salut possible. Et oui, tout est possible. Alors tout est possible. Cette grande question qui sous-tend cette tentation, en fait, c'est une forme de tentation permanente. La tentation de l'âme, la tentation de la chair, la tentation de la facilité. Voilà, c'est en permanence, l'œuvre raconte cette tentation.
Les Karamazov, c'est, je le disais, c'est 3000 pages, donc j'imagine que même pour 5 heures, mais maintenant pour 4 heures et demie, il a fallu enlever. Alors vous dites toujours que ce n'est pas une adaptation, il n'y a pas de phrase transformée. Vous avez coupé, simplement, gardé les dialogues. Ça représente quoi, à peu près, ce qui reste? Un quart, un tiers, moins?
Moins, je pense.
Moins encore.
Bien moins. J'ai pas vraiment la notion, mais je pense que si on lisait tout, ça durerait facilement 18 heures. Donc, voilà.
Et vous n'êtes pas Julien Gosselin.
Non, tout à fait.
Sans doute. En tout cas, cette adaptation, ces morceaux choisis de Dostoïevski, c'est avec Camille de la Guillonnière, votre habituelle dramaturge, que vous avez donc choisi de porter ces Karamazov en scène. Il joue, on l'entendait au début de l'émission, Madame Koklakova, donc qui est une sorte de narratrice, comme elle l'est aussi un peu dans le roman de Dostoïevski. On va écouter Camille de la Guillonnière parler de votre travail à tous les deux. C'est au micro de Perrine Malinge.
On l'appelle la Koklakova. C'est cette femme qui est la mère de Lise et qui est beaucoup, beaucoup plus développée dans le roman et qui... Finalement, faut pas se dire qu'on essaye d'imprimer quelque chose à ce livre. C'est toujours le livre qui va nous rattraper. Et ce personnage qui vient comme ça à plein de petits endroits dans l'histoire... rattraper le public, les remettre dans le fil dramaturgique, on s'aperçoit que dans le roman, elle fait la même chose. La Koklakova ponctue comme ça tout le roman. Le monde a besoin qu'on lui raconte des histoires, et il a besoin de les comprendre. Ce rapport au public, il est... À la fois, on le prend par la main, et en même temps, on se dit, bon, allez, les gars, il y en a pour un moment, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Parce que je pense que tout le monde venant se poser dans la salle pour les frères Karamazov, se dit, bon, pfiou. Allez, on va s'accrocher au fauteuil, hein. Et oui, en effet, il faut sûrement... Mais finalement, vous allez voir, ça va pas être si compliqué que ça. Voilà, on vous donne 2-3 clés d'emblée, puis ça, c'est pas parce que c'est un grand roman russe qu'on est obligé de tirer une tronche de 4 pieds de long. Voilà. En fait, non, ça peut être un vrai bon moment, simple et grand, c'est sûr. Il y a plein de choses qui sont vraiment pas drôles, mais ça fait du bien aussi d'entendre des choses pas drôles. Il y a une forme de pari aussi, il y a une forme de challenge à choisir ces monstres-là, qui est passionnante, hein, qui est trépidante. D'ailleurs, on se dit toujours, qu'est-ce qui nous a pris les matières nous dépassent tellement, mais faut brasser. Faut se faire brasser, faut brasser. Et comme on dit souvent, cette phrase de Jacques Copeau qui disait « Quand je prends un texte, la question n'est pas savoir ce que je vais en faire, la question est de savoir ce qu'il va faire de moi. »
Voilà, belle citation de Copeau par votre camarade Camille de la Guillonnière. Jean Bellorini, ce texte, en fait, quand vous l'avez abordé, quand vous avez commencé à le travailler pour la scène, vous étiez à un endroit. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes justement, grâce à ce texte, à un autre?
Mais bien sûr, on est toujours modifié par, comme le dit bien Copeau, par les œuvres. Puis... Il y a aussi déjà c'est une aventure collective, bien sûr que Camille et moi préparons le travail, mais ne serait-ce que les choix de ces morceaux, tous les acteurs, et c'est ça qui ramène la troupe au centre de la création. C'est pour ça aussi que par rapport à une pièce qui est écrite, qui est déjà distribuée, là il y a cette liberté, cette autorité en fait prise par les acteurs de dire non, ça je veux absolument le dire moi, alors que c'est écrit par le même, voilà, on ne sait pas vraiment qui dit quoi. C'est vrai que dans le texte même, il y a 80% de dialogue déjà. Donc c'est quelque part plus simple d'en faire du théâtre. Mais l'investissement demandé à chaque acteur et le fait qu'il se positionne clairement dans les choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas du spectacle, cet investissement raconte la troupe et façonne une manière d'envisager le spectacle.
Vous leur avez donné comme tâche d'aller pêcher aussi des choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé.
Bien entendu.
Et ils vous les ont apportées.
Bien entendu. Tout le travail se fait comme ça, sous forme d'aller-retour. Contrairement à une pièce qu'on essaie de s'expliquer ou de se raconter, là, quand on ne comprend pas quelque chose, en fait, on va relire un autre chapitre et on se le relit ensemble. Et puis finalement, il est tellement beau qu'il reste dans le spectacle alors qu'on n'y avait pas pensé. Voilà, c'est beaucoup d'imprévus, c'est beaucoup d'accidents, c'est beaucoup de curiosité, de partage. C'est pour ça. Alors on signe, Camille et moi, mais vraiment on pourrait signer de manière collective. Et pareil pour la mise en scène. C'est vraiment la troupe qui fabrique ce spectacle. Donc la troupe en même temps est effectivement un buvard et elle est transformée d'un spectacle à l'autre. C'est vrai que ces terribles histoires, ces passions, ces tragédies humaines, caractérielles qui sont éprouvées par ces personnages, plus ou moins consciemment, elles transpirent sur nous et on les vit. C'est moins simple, et ça je peux pas la raconter clairement, je peux pas l'expliquer, mais c'est moins simple de passer 6 mois avec Dostoïevski que de passer 6 mois avec Victor Hugo. Et pourtant, c'est tout aussi fort et tout aussi beau, Victor Hugo, comme Dostoïevski. Mais c'est pas construit de la même manière, ça ne saigne pas de la même manière.
Et puis, sans doute aussi, il y a quelque chose chez Dostoïevski qui est terriblement ébranlant pour qui lit ou qui vient voir votre spectacle, Jean Bellorini. C'est le fait qu'il nous pose des questions, mais qu'il ne répond jamais. Exemple, une des scènes du début, le père et deux de ses fils. Le père Fiodor, c'est Jacques Hadjaj. Les deux fils, Alyosha, François de Bloch et Ivan Geoffroy Rondeau. Et Dieu dans tout ça.
Alyosha, tu le crois que je suis juste rien qu'un bouffon?
Non, je crois que vous n'êtes pas juste qu'un bouffon.
Je le crois que tu le crois, parce que tu parles sincèrement. Tu as un regard sincère, et tu parles sincèrement. Ivan, non ? Ivan est orgueilleux. N'empêche-moi, j'en finirai avec ton monastère. Toute cette mystique-là, d'un coup sur toute la terre, je la supprimerai pour te les raisonner une fois pour toutes, tous les crétins.
Et pourquoi la supprimer ?
Pour que la vérité luise plus vite. Voilà pourquoi.
Mais si elle luit, la vérité, vous serez le premier, vous, à vous faire détrousser, ruiner et ensuite supprimer.
Ah, n'empêche, t'as raison, si ça se trouve. Je suis une ânesse. Bon, alors qu'il reste en place ton monastère, Alyosha, et nous, les intelligents, on va rester au chaud à siroter du cognac. Tu sais quoi, Ivan? Que c'est Dieu lui-même, je parie, qui a fixé ça comme ça, absolument exprès. Ivan, dis-le, il existe Dieu ou il n'existe pas?
Non, Dieu n'existe pas.
Alyosha, il existe Dieu?
Dieu existe.
Ivan, et l'immortalité, elle existe? Même ne serait-ce que n'importe laquelle, même la plus petite, la plus minuscule?
Non, l'immortalité non plus n'existe pas.
Pas du tout?
Pas du tout.
Alyosha, elle existe, l'immortalité?
Elle existe.
Bah, le plus probable, c'est que c'est Ivan qui a raison. Quand on y pense, seulement, tout ce que l'homme a pu donner de foi, toutes ses forces qu'il a données pour rien au nom de ce rêve, et ça depuis combien de milliers d'années?
Aucune civilisation n'aurait pu exister si on n'avait pas inventé Dieu.
Jean Bellorini, le texte de Dostoïevski est absolument désespérant. Et quand on a lu le livre dans du temps de son adolescence, c'est vrai qu'on en garde un souvenir assez terrifiant. Et votre spectacle est très sombre et en même temps, il est très joyeux. C'est votre marque de fabrique, souvent. Mais vous pensez que c'est aussi un texte qui prête à rire aussi, qui apporte une certaine force joyeuse?
Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'ironie, il y a du cynisme, mais il y a aussi effectivement de la joie, de la dérision, de la folie poussée à l'extrême qui fait qu'on ne peut plus qu'en rire, ou alors en découdre définitivement. Et puis il y a quand même une forme d'espoir final dans l'engagement laissé aux enfants. C'est pour ça que tous les choix... Quand on a commencé le travail, je me demandais si on n'allait pas résumer le spectacle plutôt à la dimension des enfants, la culpabilité, la découverte de l'injustice. Voilà,
oui,
deux,
c'est
trois
le cœur du spectacle, la souffrance des enfants, la souffrance des innocents.
Exactement. Et à la fin, quand même, il laisse cette question ouverte. Les seuls qui pourront peut-être reconstruire, réinventer une manière d'être, ce sont les enfants. Et en ça, il y a une forme de lumière, une forme d'espérance claire. Même si, bien entendu, que les êtres vivants de ce spectacle sont tous voués soit à la Sibérie pour toujours, soit à la folie mentale, soit
au suicide.
Voilà, on sait où on va, où l'homme, la direction est claire. Et en même temps, tant qu'on vit, tant qu'on parle, et c'est la force du théâtre, même si on fait un spectacle extrêmement sombre, extrêmement profond et désespéré, le fait d'en faire même du théâtre est un acte positif et un acte de questionnement ouvert et donc joyeux. Joyeux au sens profond du terme.
Alors, comme d'habitude, avec vous et votre troupe, Jean Bellorini, la joie, ça passe aussi par la musique, par le chanter ensemble. Il y en a de nombreux, on aurait pu choisir plein de choses, on a eu une discussion parce que certains préféraient quelques chœurs à d'autres. Bon, ben voilà, j'ai tranché, c'est le chœur du début du spectacle.
Le Grand Inquisiteur est un texte très compliqué à faire parvenir, parce que c'est une querelle théologique, ça part des tentations du Christ. Il faut se souvenir de la Bible, il faut se souvenir de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire des trois tentations du Christ. Le diable a tenté le Christ qui s'était retiré 40 jours dans le désert. La première des tentations, elle est connue, c'est « Tu vois ces pierres dans le désert, transforme-les en pain et l'humanité entière te suivra ». La deuxième, c'est « Jette-toi de cette tour, car il est dit que de cette tour, les anges viendront et tu ne te feras aucun mal. Et tu prouveras que tu es bien le Fils du Créateur. » Et la troisième, c'est « de prendre ce qu'il appelle le glaive de César, c'est-à-dire en fait de se saisir pour l'Église du pouvoir temporel. Ce qui a été fait par Rome pendant 8 siècles. Voilà. Et ces 3 tentations, le Christ les a refusées. Et à partir de là, Dostoïevski invente une fiction ahurissante du Christ qui revient sur Terre, à Séville au XVIe siècle, qui refait des miracles, qui est revenu visiter son peuple. C'est en pleine période de l'Inquisition, le grand inquisiteur passe par là, voit les miracles du Christ et le fait arrêter par sa garde et l'envoie en prison. C'est un texte hallucinant, c'est un texte absolument passionnant, qui parle du problème de la foi. Ça parle surtout de la liberté des hommes. C'est-à-dire que le grand inquisiteur dit au Christ, les hommes ne veulent pas être libres, ils sont nés rebelles, et pour être heureux, ils préfèrent ne pas être libres. Ils ne veulent surtout pas de la torture qu'est le libre arbitre, c'est-à-dire de la torture de décider du bien et du mal. Ils veulent qu'on le leur dise. Et ils préfèrent ne pas être libres, mais manger à leur faim.
Jean Bellorini, bien sûr, la voix de Patrice Chéreau, parlant de ce célèbre monologue qui a fasciné beaucoup de metteurs en scène de théâtre, d'ailleurs. Le monologue sur le grand inquisiteur, Ivan, qui, dans une sorte de délire, raconte à son frère Alyosha ce dont Patrice Chéreau parle, cette fable du Christ qui revient et qui va être condamné par son Église. Et en fait, vous l'avez entendu lire ce texte, c'était en 2008 à la Cartoucherie, et c'est depuis ce temps-là, cette petite graine, et c'est intéressant sur justement passer, comment se passe la création, comment on passe les textes de l'un à l'autre, c'est là qu'est née votre envie en fait de monter ce livre.
Et ce moment, j'en ai un souvenir comme si c'était tout à l'heure. On répétait au Théâtre du Soleil et je me suis retrouvé là absolument par hasard. Et j'ai entendu ce texte dit par Patrice Chéreau dans une forme extrêmement simple, une grande table sur le grand plateau du Soleil et juste Patrice Chéreau avec son texte à la main disant le grand inquisiteur. Et tout d'un coup, cette question... il en parle bien mieux que moi, bien entendu, mais du choix du libre arbitre laissé à l'homme et de ce vertige que ça lui crée. Et il en veut pas de cette liberté finalement. Je l'ai entendu comme jamais je l'avais entendu. J'ai après ce moment-là lu Dostoïevski, découvert en fait. Et depuis, c'est vrai que ça m'habite et je me demandais quand est-ce qu'on oserait ensemble tenter de monter un spectacle autour de ça. Et comme souvent, c'est des coïncidences de distribution. Enfin, clairement, là, après La Bonne Âme du Szechuan, après Lilium, enfin, tout d'un coup, les trois frères, plus le quatrième, les trois jeunes femmes, le père, voilà, on avait exactement la distribution sans aller chercher un acteur exprès de l'extérieur pour un rôle, sans se dire il y a quelqu'un avec qui j'aimerais, qui fait partie de la troupe que j'aimerais, à qui je voudrais donner un beau rôle, et on n'en a pas. Tout d'un coup, tout collait. Et la liberté que voilà ces œuvres littéraires nous permettent, c'est aussi ça. Mais quand même, l'audace naît à un moment de la rencontre entre la distribution et le bon moment de le faire.
Alors, ce monologue du grand inquisiteur, il repose, et c'est une lourde charge, sur les épaules de Geoffroy Rondeau. On ne va pas l'écouter en entier parce qu'il dure quoi ? 25
minutes,
hein, ouais, quelque chose comme ça. On va en écouter un peu plus d'une minute, le cœur du monologue du grand inquisiteur.
Ici, l'essentiel est que le vieillard a besoin de s'exprimer. Il dit ce qu'il a tué pendant les 90 ans de sa vie. Il dit, tu savais que ton exploit serait conservé dans les livres, qu'il atteindrait les dernières limites de la terre et la fin des temps. Tu as eu l'espoir d'une foi libre. Tu avais soif d'une foi libre. Tu as exigé que l'amour de l'homme pour toi soit libre, retenu par ta seule séduction. Par bonheur, en partant, tu as tout remis entre nos mains. Tout, n'est-ce pas, a été remis par toi, au pape. Tu nous as confié toute la tâche. Tu nous a promis. Tu nous as confirmé par ta parole. Tu nous as donné le droit de lier et de délier. Et il va de soi que tu ne saurais nous enlever ce droit maintenant. Tu n'as pas le droit d'ajouter un seul mot à ce que tu as déjà dit pour ne pas ôter aux hommes la liberté que tu défendais quand tu étais sur terre il y a 15 siècles. Je veux vous rendre libre, oui ! Cette affaire-là nous a coûté très cher. Mais nous l'avons enfin parachevée et en ton nom. Alors pourquoi venir nous déranger quand c'est seulement maintenant ? pour la première fois qu'il est devenu enfin possible de penser au bonheur des humains. On t'avait mis en garde, n'est-ce pas ?
Jean Bellorini, il y a tout, effectivement, dans ce monologue terrible. Il y a la critique de l'Église, il y a la foi en Dieu et en même temps le doute permanent, parce que ce monologue arrive après une description très ancrée dans le siècle, mais qui en fait est ancrée dans notre époque aussi aujourd'hui, de tous les massacres des innocents qui ont lieu sur la planète. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que Dostoïevski est habité lui-même, lorsqu'il écrit cette partie de son texte, par plusieurs voix, par la voix du croyant, la voix de l'athée, la voix du déçu de la religion, et la voix de l'homme de son temps, comme on peut l'être aujourd'hui, horrifié par ce qu'il voit le soir aux informations.
Effectivement, c'est ce qui est magnifique dans toute l'œuvre, c'est cette dimension polyphonique où Dostoïevski plaide en même temps pour tout et son contraire. Et finalement, le personnage Dostoïevski, nous on l'a laissé de côté, on le déteste presque. Ce qu'il a été, ce qu'il représente, bien sûr qu'on s'y est intéressé, mais le poète Dostoïevski, lui, est magnifique et extraordinaire parce que il ouvre plutôt que ce qu'on connaît de lui. Effectivement, la résonance actuelle avec, bien entendu, les injustices, bien entendu, la terreur dans le monde. Au-delà de ça, et à Saint-Denis, et c'était aussi le choix et le bon moment de le faire peut-être pour moi, c'est cette sensation quand on travaille dans les classes, avec des jeunes gens, ce retour du créationnisme. Ça semble fou, mais à écouter les jeunes gens, c'est évident que c'est Dieu qui a créé
en
le monde.
En 7 jours, etc. Voilà. Oui.
Et on oublie un peu Darwin, et ça fait extrêmement peur. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement clair, on n'a même plus le droit de douter de ça. Et il me semblait important de re-raconter cette histoire de cette manière-là, aussi pour avoir cet écho-là dans notre théâtre. Le théâtre est aussi là pour contrarier un tout petit peu certaines certitudes et certains courants montants un peu monstrueux.
Oui, et d'ailleurs, dans ce texte de Dostoïevski, il y a aussi l'influence de l'injustice sur la vie des enfants. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un des enfants, habités par l'idée de la justice, reçoivent ce qui est inacceptable dans le monde? Certains d'entre eux vont en mourir.
Vous voyez la filasse? Elle était plus épaisse, il y a juste une semaine de ça. De ma barbiche, n'est-ce pas, je parle, parce que c'est ma barbiche qu'on traite de filasse. Les écoliers, surtout. Bon, alors, il me traîne comme ça, votre frère Dmitri Fiodorovitch, par ma barbiche. Il me sort de la taverne sur la place, et juste à ce moment-là, les écoliers qui sortent de leur classe. Et Ilyusha avec eux. Quand il m'a vu dans cet état-là, n'est-ce pas, il s'est jeté sur moi. Papa, il crie, papa. Il s'accroche à moi, il m'embrasse, il veut me libérer. Il crie à mon offenseur, laissez-le, c'est mon papa, pardonnez-lui. Comme ça qu'il a crié, pardonnez. Et de ses petites mains-là, il me tenait. Et puis sa main à lui, la main à votre frérot, là, il l'embrassait, n'est-ce pas? Je me souviens à ce moment-là de son visage, n'est-ce pas, qu'il avait. Je ne l'ai pas oublié, n'est-ce pas? Et je ne l'oublierai jamais. La colère, n'est-ce pas? C'est bien ça. La colère. Dans un si petit être, une colère si grande. Tout ça, vous ne le savez pas. Le fait est qu'après cet événement, tous les écoliers de son école se sont mis à le traiter de filasse. Des enfants à l'école, c'est des êtres sans pitié. Et Ilyusha, son esprit de noblesse s'est ranimé. Seul contre tous, il s'est dressé. Pour son père, pour la vérité, pour la justice. Parce qu'ils sont comme ça, nos petits-enfants. La justice sur la terre, ils n'ont pas encore eu 10 ans qu'ils la connaissent. À cette minute précise, à ce moment-là, comme il lui baisait les mains à votre frérot, et quand il lui criait « pardonnez papa », toute la vérité, il l'a vécue, mon Ilouchetchka. Elle est entrée en lui, cette vérité. Elle vous l'a frappée pour toute la vie.
Voilà le sort des innocents. Selon Dostoïevski, cette petite Ilyusha est un personnage qui passe dans la pièce Jean Bellorini, mais qui est très important.
Là, on a entendu Mathieu Delmonté, qui joue donc le père, le capitaine, le père du petit Ilyusha. Et effectivement, il y a ces deux prises de conscience. Il y a cette culpabilité terrible dont il va mourir. Et puis, il y a cet épisode que j'aime, très simple, que j'aime beaucoup. Le petit Ilyusha a mis une aiguille dans une mie de pain qu'il a donnée à manger à son chien, et le chien va en mourir. Et voilà, cette découverte de la méchanceté, de la cruauté, participera aussi du désastre et il se laissera mourir au-dessus de ça.
Alors cette pièce, Karamazov, donc, qui va tourner en France, elle nous offre, comme d'habitude, un dispositif à la fois très savant et très simple. C'est du théâtre de tréteaux, vous aimez le faire. On voit les rails sur lesquels roulent les petits praticables dans lesquels sont les acteurs. Il y a des toutes petites boîtes transparentes dans lesquelles ces hommes et ces femmes s'agitent. Alors, Perrine Malinge, qui est allée voir le spectacle à Saint-Denis, en est revenue avec les voix de deux personnages qui sont très importants justement pour la mise en scène de vos spectacles, Jean Bellorini. C'est André Néry, le régisseur général, et Michalis Boliakis, votre musicien et pianiste attitré. Bonjour Perrine.
Bonjour, et oui, j'ai donc été faire un tour au Théâtre Gérard Philipe. C'était tout début janvier, avant le début des représentations au TGP. Le montage du décor était tout juste fini. Et quand on entre dans la salle du théâtre, on est en quelque sorte happé par ce décor. L'avant-scène est occupée par les rails dont vous venez de parler, Kathleen, sur lesquels vont glisser les chariots et les comédiens au fil du spectacle. Et puis, posée derrière ces rails, comme au milieu de nulle part, sur le sol noir, une maison toute noire, elle aussi, d'un noir mat, les murs, le toit, qui est par ailleurs plat, ce toit, puisqu'on peut monter et déambuler dessus à 4 mètres de haut. On dirait presque une vraie maison, elle vous suit depuis Avignon, elle a juste un petit peu rétréci en largeur, passant de 13 mètres pour la carrière Boulbon à 8 mètres pour la tournée. Deux pièces principales, une petite pièce carrée pleine de grands instruments de musique. C'est le salon où trois musiciens jouent en live pendant le spectacle. Et ce que vous appelez la chambre de Fiodor, le père, avec radiateur, chaise de bois et cognac. Cette maison, c'est la datcha des Karamazov et plus largement un grand terrain de jeu, car c'est le royaume de la bidouille avec vous, Jean Bellorini. Une bidouille artisanale que vous revendiquez mais qui est tout de même poussée à un certain degré de technicité. Et il en faut du monde pour un spectacle d'une telle ampleur. Vous signez ou co-signez presque tout, Jean Bellorini, la mise en scène, l'adaptation, la lumière, la scénographie, la création musicale, avec une équipe fidèle, solide de créateurs et d'assistants. Pour le décor, c'est vous qui le pensez. Par exemple, un soir, vous avez envoyé une photo d'une datcha russe au directeur technique et au régisseur général, en leur écrivant « voilà, c'est ce que je veux ». Et à partir de là, vous échangez pour sa conception. Dans tout ce monde qui collabore avec vous, il y a les anciens, ceux qui travaillent avec vous depuis plusieurs années, comme Michalis Boliakis, pianiste de formation classique d'origine grecque, qui en est à sa 4e collaboration avec vous, et les nouveaux, bien qu'un peu plus âgés que la moyenne, puisque vous êtes presque pour toujours, comme on aime le dire, une bande de jeunes. Le régisseur général est un nouveau venu. Vous l'avez rencontré sur un spectacle de Macha Makeyev, avec qui vous collaborez également. Entre réglages techniques et répétitions, c'est vers lui que je me suis dirigée en entrant dans la salle. Vous en étiez alors en plein réglage des lumières. La maison, on peut la visiter?
Oui, vous voulez la visiter? Bah alors ça sera à la lumière de ma lampe. Hein.
Oui, je veux bien.
Alors on y va. Je m'appelle André Néry. Donc je suis la régisseur général du spectacle Karamazov. On va passer par là. Attention.
On se faufile.
Il y a beaucoup de machinerie dans ce spectacle, énormément. C'est des contraintes énormes. C'est-à-dire qu'il a fallu fabriquer un décor qui en fait est un décor très solide. En fait, on a fabriqué une vraie maison qui puisse résister aux intempéries, c'est-à-dire à la pluie, au vent, enfin au mistral. Donc on a vraiment fait une grosse maison, très lourde. Vous voyez, tout ça, ça pourrait être carrément une... On pourrait la recycler, quoi. Ce qui est frappant chez Jean, c'est que rien n'est établi. C'est-à-dire, il laisse vraiment tout ouvert, tout le temps. C'est-à-dire qu'on cherche beaucoup. On part de peu de choses. Et puis, si c'est trop contraignant techniquement, on abandonne. On ne garde les choses que si les acteurs se les approprient. Voilà, si ça marche pas, on élimine. On a éliminé beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Quand on est au plateau, tous, il n'y a pas de différence entre la technique et les acteurs. D'autant plus que chez Jean, les acteurs sont aussi des techniciens. Ils participent au changement de décor. C'est un travail d'équipe, de troupe. Voilà. Je pense qu'on peut vraiment parler de troupe.
Là, je vais vous demander de faire attention quand même. On va voir si on a assez de lumière.
Là, on est donc sur le toit de la datcha des Karamazov. Voilà, c'est un espace de jeu que Jean souhaitait très tôt. Surtout qu'il aime bien quand c'est choral, c'est-à-dire quand il y a énormément de gens en même temps sur le plateau. Donc ça permettait d'avoir à 4 mètres de haut une scène, quoi, un plancher de scène. Je pense que dans les spectacles de Jean, il y a beaucoup de focus. C'est à la fois très choral, très collégial, c'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de monde sur le plateau. Et puis des fois, il y a des focus, ça se resserre sur une scène, sur un acteur. Même s'il y a une scène qui se passe à Jardin, il y a un focus à court qui peut illustrer un peu plus ce qui se passe sur le plateau. C'est très, très cinématographique. Ce qui me touche dans la mise en scène de Jean, c'est la simplicité, en fait, du récit. Il en a fait une adaptation qui est accessible. En plus, quand on est, nous, en coulisses, on ne voit pas ce qui se passe, mais on entend. D'ailleurs, c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est de me sentir heureux après les avoir écoutés. Voilà. On a la vue sur la salle, en fait, qui est vide. Et j'aime bien ces moments de préparation et d'attente avant le début du spectacle. C'est-à-dire que ça, tout est calme, comme si on était hors du temps. Le théâtre, c'est aussi un endroit où le silence est aussi important que les mots, la parole, la musique. Donc j'aime bien, oui, j'aime bien, c'est les moments avant, toujours. Alors là, on est dans la partie des musiciens.
Comment vous vous appelez? Dites-moi votre nom.
Moi, je m'appelle Michalis Boliakis. Je suis pianiste.
Vous vous sentez bien dans votre petit salon de musique?
Bah, très très bien. Il y a plein de claviers différents, il y a un piano, il y a une batterie, et d'un lieu à un autre, selon les dimensions, ça peut un petit peu devenir plus petit ou plus grand, ou plus confortable, ou un peu plus serré. Et alors, ce qui est intéressant avec Jean, c'est qu'on essaye d'être là tous un peu dès le début, c'est-à-dire que la musique ne se fait pas du tout... Par exemple, je la compose pas chez moi, puis je l'amène, puis on la teste. C'est vraiment des choses qu'on improvise sur le plateau, pendant la répétition, sur un texte. Parfois, les comédiens, ils sont même autour d'une table, ils sont même pas forcément en train de jouer, notamment au début, quand on fait la sélection des textes. Donc ça peut être soit de l'improvisation, soit des morceaux classiques. Donc à chaque fois, j'amène une bonne trentaine de partitions pour avoir un peu des ressources et pouvoir essayer. Donc ça peut être du Beethoven, du Chopin, du Rachmaninoff, des compositeurs assez connus finalement dans l'inconscient collectif, on va dire. Et puis aussi des choses réarrangées, c'est-à-dire des morceaux existants, mais qu'on modifie soit au niveau du son, soit au niveau du rythme, pour que ça puisse un petit peu aller avec ce qui est en train d'être raconté. Je suis le seul à être vraiment que musicien sur ce spectacle. Le reste des musiciens sont plus ou moins des comédiens aussi. Et finalement, on peut très bien concevoir un spectacle de Jean comme une partition musicale. Le texte, il a ses inflexions, il a son débit, il a son rythme. Et il a une façon de le faire travailler qui est vraiment très très proche de la partition, d'une écriture qui, moi, m'est très familière. En musique, on travaille sur ça, en fait. Le rythme, l'intonation, l'attaque et puis le timbre, quoi. C'est ces quatre choses-là qui nous animent pendant des années de travail musical. Et là, il y a beaucoup de ça sur le texte, sur le travail de texte.
Elle me regarde à peine, elle fait une moue, elle présente. Moi, je me dis, attends un peu, je me vengerai.
Moi, c'est la première fois qu'avec Jean... Je travaillais sur un roman, et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette espèce d'écriture torrentielle et interminable, et on est obligé de presque tout enlever et garder ce qui nous parle le plus au cœur. Moi, de mon côté, ce que je peux dire, c'est que j'essaye quand même de garder une cohérence musicale, une cohérence un peu dans les thèmes, un peu comme si on regardait de très très loin les leitmotifs qu'il y a dans les opéras de Wagner, par exemple, c'est-à-dire des thèmes qui reviennent et qui identifient tel ou tel personnage. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup utilisé... un thème, un prélude de Chopin qu'on a un peu décliné, on a réarrangé nous, on l'a improvisé dessus, on a rajouté de la batterie à certains moments, à d'autres moments il apparaît très pur, et on a beaucoup utilisé aussi des variations que le compositeur Rachmaninoff a fait de ce prélude-là. Et donc c'est ce prélude-là, que ce soit varié, que ce soit réarrangé, que ce soit torturé, enfin, un peu tordu dans tous les sens, ça apparaît pendant tout le spectacle, en fait. Et ça accompagne plus ou moins le personnage de Dimitri, qui est un des fils de Fiodor, un des frères Karamazov. Là, ça, c'est une des déclinaisons possibles du prélude de Chopin, en fait. Un peu réarrangé, plutôt en version rock, on va dire. Donc c'est vraiment un mélange qui paraît assez... audacieux de prime abord et même un peu insolent entre guillemets dans les différentes musiques, mais finalement, comme c'est toujours au service du texte et que, comme Jean dit, et je trouve ça très juste, c'est le battement du cœur des comédiens, la musique, bah, comme il y a toujours cette idée-là, bah, ça fonctionne quand même.
Merci beaucoup, Perrine Malinge, pour cette plongée dans les coulisses du théâtre de Saint-Denis. Jean Bellorini, bien sûr, quand on est habitué à vos spectacles, on sait que la musique ne vient pas simplement pour permettre un changement de décor ou respirer. Elle fait partie intégrante de la pièce. Elle exprime des choses. Et là, en l'occurrence, souvent, le cœur des comédiens qui chantent, il est comme un cœur antique, il est là aussi pour ponctuer le récit de Dostoïevski, pour appuyer certaines scènes. Et tout fonctionne très bien, sauf peut-être, alors pour certains critiques, la chanson d'Adamo qui arrive et que celui, le comédien qui joue Dimitri, le frère accusé du meurtre du père Jean-Christophe Folly, chante à un moment.
C'est Smerdiakov qui
chante. Ah, c'est Smerdiakov, pardon, oui.
C'est Marc Plat. Oui. Ça fait partie de ces... En répétition, on invente, on joue, en fait. Et en l'occurrence, Marc, un jour, après cette scène compliquée, tout d'un coup, chante « Tombe la neige ». Et tout d'un coup, tout résonne, tout se décline, tout correspond. Souvent... On se dit, bah tiens, on va essayer de le garder. Le lendemain, on le refait, c'est complètement à côté et on l'oublie aisément et tranquillement. Et puis là, c'est vrai que ça vient après le Grand Inquisiteur, après ces questions de fond, après cette profonde... on sombre dans des affres, on a l'impression de rien comprendre. Tout d'un coup, on a une illumination sur une expression, voilà, mais... Tout d'un coup, ça nous fait du bien, je crois, la chanson française dans ce que ça raconte, comme Piaf, voilà, c'est une histoire, c'est une petite histoire. Bah, c'est un mini-théâtre. Et c'est le mini-théâtre de Smerdiakov qui, tout d'un coup, est paralysé par ce qu'il entrevoit ou ce qu'il commence à entreprendre et chante Tombe la neige pendant que dort Fiodor, le père, sous la neige vraiment lui.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige.
Et donc, il y a aussi, on l'a entendu dans ce que nous disait Michalis Boliakis à Perrine, le retour de ce prélude de Chopin, qu'effectivement, l'oreille reconnaît, et puis tout d'un coup, c'est chanté, c'est différent, c'est orchestré différemment, mais ça revient. Il y avait aussi, pour ne pas reprendre le vocabulaire, le leitmotiv, il fallait qu'il y ait quelque chose.
Effectivement, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'accroche. Je crois que le spectateur a besoin de ces ponctuations plus ou moins conscientes. Et la musique, pour moi, est ça. Alors, c'est soit une soupape, comme avec Adamo, où tout d'un coup, ça déborde, soit, au contraire, le battement de cœur du personnage, de l'acteur, qui apparaît, qui est palpable, du coup. Bon, j'aime dire que tout est musical au théâtre. On prend la parole sur un plateau de théâtre, c'est de la musique, le personnage écrit une partition en direct.
Et d'ailleurs, quand il y a une fausse note, on l'entend.
Tout à fait, et c'est pas toujours simple. Et en même temps, des fois, il y a une tendresse qui me touche plus au théâtre quand des chanteurs ne sont pas des virtuoses. Et ça apporte une humanité, une tendresse. Ce cœur des chérubins de Tchaïkovski qu'on a entendu tout à l'heure, évidemment, il est imparfait, il est totalement imparfait. Et bah, c'est ça qui est presque revendiqué. Le théâtre est là aussi pour ses imperfections, c'est rendre aux faibles ce qu'ils ont le droit d'avoir aussi.
Et d'ailleurs, il y a également un Gloria assez étonnant qui est chanté. On va l'entendre quand on se quittera, Jean Bellorini. Voilà, c'est-à-dire dans pas longtemps. Je rappelle que ce Karamazov, il y a peut-être encore des places pour Saint-Denis ce soir si vous vous dépêchez, mais sinon, ça sera pour nos amis de province. Donc, je le rappelle, début février, ça commence à Bayonne. Ensuite, il y aura Nice, Créteil, La Roche-sur-Yon, Amiens, Toulouse, Lyon, Montpellier. Ça se terminera en juin, début juin, à la scène nationale de Quimper. Et c'est un magnifique spectacle. Merci beaucoup Jean Bellorini d'être venu. Et on se quitte donc avec quelques notes de ce Gloria que notre réalisatrice a adoré.
Gloria, 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 in excelsis Deo, in excelsis. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Je vous retrouverai, si vous le voulez bien, dimanche prochain pour parler d'un sujet brûlant. La mafia et la République, la mafia dans la République. Je recevrai le réalisateur d'un documentaire en trois parties qui sera diffusé mardi 7 février sur Arte. Sur ce sujet, il s'appelle Christophe Bouquet. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.